pour investir, le coffre-fort.
Gentlemen, start your engines. On est avec Pierre Novikov d'Arcurial Motor Cars. Bonjour.
Bonjour.
Et on va parler donc de ce marché des Young Timers. Alors, on vous en parle régulièrement dans cette émission. C'est le marché des voitures de collection relativement récentes. C'est-à-dire que ça commence dans les années 70, hein, globalement, et jusqu'à il y a quelques années. Et il y a une vraie frénésie autour de ce marché. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est des voitures un petit peu plus abordables. Et puis, il y a une dynamique qui est vraiment irrépressible, c'est la prime au poster dans la chambre de quand on était petit.
La prime au poster, c'est une belle expression.
La prime au poster, voilà, on va la garder. Moi, c'est parce qu'on préparait l'émission avec Venezia et Gwendal, comme d'habitude, et la première voiture que j'ai vue, des photos qui nous ont été transmises, ben voilà, c'est une Testarossa blanche, c'est celle de Deux Flics à Miami, et il y en a une qui sera en vente.
Oui, au Mans Classique, exactement,
voilà, au Mans
tout
Classique.
Début juillet. Et en fait, cette année, le Mans Classique a scindé son programme, donc c'est 1975-2015. Et au fond,
génial.
C'est une édition légende qui retrace un peu aussi l'histoire des voitures plus contemporaines en compétition. Mmh. Et donc, on va faire une vente qui va être axée forcément sur les Young Timers. Mais de façon plus large, en fait, il y a quand même des nouvelles distinctions. Parce qu'en fait, on a toujours un Young Timer dans son cœur. Et aujourd'hui, il y a des jeunes collectionneurs qui ont 30 ans. Ouais. Et donc, eux, ils vont faire un distinguo, ils vont dire les Young Timers, pour nous, ce sont les voitures analogiques. Par opposition aux voitures où il y a beaucoup d'électronique, numérique, avec Apple TV, Android TV, je ne sais pas quoi, des choses que moi, je ne maîtrise pas.
Les voitures analogiques, alors ça, c'est une vraie tendance.
Oui, c'est ça, en fait.
Le marché est en train de se segmenter là-dessus.
En réfléchissant à nos propos, je me suis dit, mais au fond, eh bien, c'est ça un peu le Young Timer moderne ou des collectionneurs de 30 ans, c'est la voiture analogique, c'est-à-dire une voiture où on sent les choses, tout simplement, et on est encore un conducteur.
Totalement, oui. Et il y a un truc qui est assez amusant, vous parliez d'analogique. Souvent, les marques et les équipementiers qui fabriquaient les horloges et les instruments à aiguilles, etc., souvent, c'était des très grandes marques. Jaeger, Velia, Borletti.
Il y a eu Cartier aussi.
Cartier qui en a fait sur certains modèles d'exception. Alors, je me souviens plutôt des voitures américaines.
Oui. Alors, il y avait une série limitée sur les Cadillac, justement, avec une pendulette Cartier. Ouais. Il y a eu ça aussi chez Maserati. Il y avait des très, très belles montres. Et puis avant, en fait, avant-guerre, on pouvait choisir son faiseur, son horloger. Et donc, il y avait des Jaeger qui s'adaptaient aux hispanos. Et c'est encore une tradition chez certains collectionneurs.
Tout à fait. Alors, si on se penche sur les labels, entre guillemets, parce que là, on ne parle même plus de marques ou de modèles, de labels qui ont le plus de succès dans le marché du Young Timer. On va dire, le cas emblématique, ce serait peut-être la Golf GTI. OK. Mais passé ça, il y a tout un tas de on préparait encore l'émission tout à l'heure, j'ai vu une Clio Williams. Quand j'étais petit, voilà, c'était alors on était sorti de la R5 Turbo, on était sorti, Renault a une riche histoire en Formule 1, et là l'idée c'était de mettre la marque Williams de Formule 1, dont Renault était équipementier, sur une Clio du quotidien, quoi.
C'était la Clio Mini, j'ai déjà 14 ans à Aix-en-Provence, et là tourne vers la gauche, je vois des jantes dorées, ces fameuses
jantes dorées. Ouais.
Et c'était une Clio Williams. J'avais 14 ans, j'en ai une aujourd'hui, évidemment.
Ah, vous en avez une ?
Mais bien sûr. Mais comment ne pas avoir une Clio Williams dans la vie ? Et je vais vous dire, il y a un truc qui est génial avec la Clio Williams. Renault fait un moteur V10 en Formule 1 qui est un des plus successful avec le V8 des années 70. Ouais. Le V10 Renault est merveilleux. C'est un des plus beaux bruits qui ait jamais existé. On a fait une vente Renault en décembre où les gens sont venus de tous les pays du monde pour voir ces Williams, ces Benetton. Donc, ils développent vraiment avec Williams cette voiture. C'est pas usurpé.
Non, du
châssis
tout,
extraordinaire. Moteur génial. Et surtout, c'est une voiture, même quand vous êtes un pilote moyen, voire mauvais, mais enthousiaste, eh bien, vous avez l'impression d'être un grand pilote. Et ça, c'est vraiment l'apanage des trains roulants français. Et j'ajoute que y a plus de possibilité de faire de Clio Williams grâce au fabuleux malus que nous avons.
Oui.
Renault a arrêté de faire un modèle hyper sportif alors que on était les spécialistes mondiaux de ces voitures. Il y avait Honda avec le VTEC et les Honda Civic. Il y avait Renault pour moi et Peugeot étaient complètement au-dessus avec la série des Clio RS, avec les 200-308 GTI. Et c'est fini. Voilà, c'est fini. Donc ça veut tout dire sur l'automobile aujourd'hui. Et ça veut aussi dire quand même que je pense que les passionnés, et il y en a toujours, même chez les jeunes, vont se tourner vers ces modèles. Ce qui est un peu particulier dans notre domaine, c'est qu'en fait, ça s'arrête aux Young Timers et aux voitures analogiques.
C'est ça.
Et donc en fait, il y a une limite temporelle à la collection et à la passion, je trouve. Parce que bon, on peut collectionner le premier modèle de Tesla, c'est intéressant. Mais une Clio Williams, c'est tellement vivant, c'est emblématique, c'est bien dessiné. il n'y a pas de défaut à cette voiture.
C'est ça aussi, quand on a une optique de collectionneur, on le voyait hier avec la peinture dans le domaine du support surface, hein, qui est un mouvement très particulier, c'est que ça a d'autant plus d'intérêt quand c'est limité dans le temps. Et c'est ça qui est intéressant, parce que dans cette période des Young Timers, bon, qui commence à devenir relativement large, on découvre aussi des modèles qu'on voyait dans la rue comme ça, et on se remet à découvrir leurs spécificités techniques. Je ne sais pas, vous parliez dans votre document préparatoire de la Honda S2000. Il y avait un moteur là-dedans. C'était un moteur de course.
La Honda S2000, c'était le moteur atmosphérique qui avait le rendement le plus élevé pour une voiture de série.
C'est-à-dire un record à l'époque.
Moteur de compétition voiture, c'est-à-dire 120 chevaux au litre.
Ouais.
Donc pour un 2 litres, elle avait 240 chevaux. Ouais. Il prenait 9 ou 10 000 tours. 10 000 tours. Mmh. Et pour les voitures un peu préparées, 11 000. Alors, il y en a quelques-uns qui ont eu des petits problèmes des moteurs Honda. Il faut le dire, sur la Honda S2000, il y a un petit problème de fiabilité.
Sur la première génération,
exact. Oui. Ah, mais monsieur est connaisseur.
Pardon, excusez-nous, on est...
La Honda S2000, c'est le Youngtimer génial. Parce que là, pour le coup, ça envoie. Mmh. C'est une propulsion, ce qui est rare pour les voitures de cette époque-là.
C'est léger.
Ça pèse pas grand-chose.
Ouais.
Et c'est surtout une grande marque Honda. Ils ont commencé à faire des voitures en 63. En 20 ans, ils ont fait des choses exceptionnelles. C'est les spécialistes du moteur 4 temps pendant longtemps. Même en moto, ils ont quand même gagné le titre moto 67. Ils gagnent toutes les catégories. Au moins, comme ça, c'est pas compliqué.
Ouais.
Avec une moto 250 cm3, 6 cylindres. C'est le raffinement, c'est l'horlogerie, en fait. Voilà.
C'est vrai qu'on n'en a pas conscience comme ça, Honda, on pense, Civic. Non, mais c'est des vrais artisans du moteur, de la technologie moteur.
En revanche, c'est déjà des voitures qui sont très suivies par les connaisseurs. Ouais. Et une Honda S2000 avec un faible kilométrage, c'est déjà une voiture qui va valoir 50, 60 000 euros, à mon avis.
Ouais.
Et c'est que le début, puisqu'on a vendu une NSX récemment, une Honda NSX. Ouais.
Elle est dans les images.
Elle est, qui était vert anglais, d'ailleurs, comme la couleur de... Et on l'a vendue quand même 140 000 euros. Parce que les gens qui connaissent ces voitures-là, ouais, savent que...
C'est sans doute une des voitures au monde qui a la cote la plus... à la fois stable, avec des supports, même d'occasion très kilométrés, on n'en trouve pas à moins de 30 000 euros, et puis qui décolle au fur et à mesure des spécificités, de la couleur, de la série spéciale aussi, il peut y en avoir.
Mais alors là, il faut comparer à l'horlogerie, c'est que ce sont des connaisseurs, des gens qui sont très pointus, et donc quand on a l'excellence, on est dans un autre marché. En fait, les gens ne regardent pas les prix, ils regardent l'état des choses, c'est vraiment une démarche de connaisseur. Sur d'autres marques, les gens regardent beaucoup les prix, ils comparent ça. Mm. Sur Honda ou sur certaines Ferrari de course ou Porsche de course, là, on est vraiment face à des gens qui connaissent par cœur, qui connaissent parfois mieux que nous, qui vivent pour ça. Et c'est passionnant, cela dit.
Ah,
mais c'est vrai que Clio Williams, comme Honda NSX, comme Honda S2000, ce sont des voitures qui, malgré la production actuelle, elles sont peut-être un peu moins performantes, mais elles sont beaucoup, beaucoup plus passionnantes à conduire.
La NSX, qui avait été mise au point avec un pilote McLaren Honda de l'époque, qui s'appelait Ayrton Senna.
Exactement, il y a des vidéos célèbres.
Ah là là, absolument terrible. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais TPI, c'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Pierre Novikov, puis on vous fera revenir avant cette vente donc, qui aura lieu début juillet.